Pendant cette période, au début de la guerre d'indépendance algérienne, les Algériens doivent faire face à des contrôles d'identité répétés, à un certain nombre de procédures d'internement administratif qui sont mises en œuvre aussi en métropole à partir des années 57-58. Et il y a aussi les gardes à vue la durée des gardes à vue qui est allongée, etc., etc. Il y a beaucoup de mesures qui touchent les Algériens. Et il faut savoir pendant la période de la guerre d'indépendance algérienne, il y a plus de 10 000 Algériens qui ont été emprisonnés dans les prisons métropolitaines. 1958, et donc c'est trois années qui précèdent la soirée du 17 octobre 61, c'est aussi un moment où sont importées en métropole un certain nombre de pratiques spécifiquement coloniales, avec notamment la création successive de deux services, notamment le service d'assistance technique qui est créé en août 1958 et qui est en fait un service d'assistance technique spécifiquement réservé aux Français musulmans d'Algérie, comme on les appelait alors, et qui est un peu comme ce qu'a décrit Muriel tout à l'heure dans les années 20, c'est-à-dire la combinaison, enfin en théorie c'est censé être des services administratifs et sociaux à destination des Algériens. En pratique, c'est un moyen de faire du renseignement et de la surveillance spécifiquement qui vise spécifiquement la population algérienne. Et notamment, ce type de service est très présent dans les lieux où sont concentrés les immigrés algériens, et notamment, par exemple, dans les bidonvilles de Nanterre, où on retrouve ce type de service. Par exemple, le service est dirigé dans le bidonville du Petit Nanterre, pardon, ce service est dirigé par Montaner, qui était à la tête qui dirigeait et encadrait le bidonville du Clos Salambier à Alger quelques années auparavant. Donc, on a là vraiment la confusion entre une action sociale et des pratiques de surveillance policière. De même, en novembre 1959, est créée une force de police auxiliaire qui vise, en fait, qui est composée d'Algériens qui sont recrutés à la fois en métropole et en Algérie et qui sont encadrés par des officiers de l'armée et qui sont ensuite détachés auprès de la préfecture de police de Paris. Donc là, l'idée, c'est de former une unité militaro-policière qui va jouer en fait un rôle central dans le dispositif répressif qui est instauré par le préfet Maurice Papon. Faut pas non plus fantasmer la taille de cette unité des harkis à Paris, ça représente environ 400 personnes, mais sur les 22 000 agents de la préfecture de police parisienne à cette date, mais c'est vraiment une unité qui va être en première ligne le soir du 17 octobre et qui va avoir un rôle important. Vous le verrez d'ailleurs dans les extraits qu'on va vous diffuser du film Octobre à Paris, les témoins reprennent souvent le rôle de ces harkis. Plus généralement, en fait, ces forces auxiliaires sont en fait chargées des tâches de basse police et on va leur déléguer un certain nombre d'actes de renseignement et de torture que les policiers parisiens parfois répugnent à accomplir eux-mêmes. Donc, j'avance un peu, j'ai oublié, je crois, de vous passer une image, mais tant pis, on y reviendra plus tard. Mais plus précisément, à mesure qu'on approche de l'automne 1961, ces tendances vont se radicaliser avec l'idée, enfin l'objectif à ce moment-là de la préfecture de police parisienne, c'est surtout d'éradiquer le FLN. C'est ce que veut le préfet Papon et c'est ce que veut aussi, par exemple, Michel Debré, qui est Premier ministre à l'époque. Et de fait, le Premier ministre soutient l'action répressive de la préfecture de police. En fait, c'est beaucoup plus éradiquer le FLN qui est l'objectif. L'objectif est beaucoup plus d'éradiquer le FLN que de vraiment protéger la police parisienne des attentats dont elle est victime. Parce que de fait, la police parisienne est victime d'attentats ciblés. Le FLN mène des attentats. Dans l'automne 1961, il y a 10 policiers qui décèdent d'attentats ciblés qui visent à la fois les policiers et les harkis. Donc c'est vraiment, disons que la menace pour les policiers sur le terrain est réelle et les policiers sont à cran. C'est aussi ça qui va expliquer les événements de cette soirée-là. Mais d'une certaine manière, la politique générale du préfet Papon, c'est pas spécialement de protéger ces hommes sur le terrain, c'est d'éradiquer le FLN. C'est ça sa priorité. Donc, les Algériens, de manière, de plus en plus, les Algériens vont être considérés dès qu'ils circulent dans la rue et notamment le soir comme des terroristes potentiels, et ils vont être victimes du harcèlement policier au quotidien, les arrestations. Enfin, ils sont souvent, on contrôle très souvent leur identité et parfois on les arrête et on les met en centre de rétention pour vérifier leur identité. Ils restent là pendant 2 ou 3 jours. Donc le contexte est de plus en plus tendu, ça c'est une évidence. À ceci s'ajoute par exemple la phrase assez célèbre prononcée par Maurice Papon le 2 octobre lors des obsèques d'un policier qui décède d'une attaque du FLN. Il prononce cette fameuse phrase: pour un coup reçu, nous en porterons 10. Et cette phrase est aussi interprétée comme un chèque en blanc donné à ces hommes pour, en quelque sorte, se faire justice par eux-mêmes. Donc, tout ceci est extrêmement imbriqué, mais pour lutter contre les attentats dont sont victimes les policiers, la préfecture de police de Paris décide de mettre en place un couvre-feu. Le 5 octobre 1961, qui conseille de la façon la plus pressante aux travailleurs musulmans algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne, et plus particulièrement de 20h30 à 5h30 du matin. De même, les Algériens n'ont pas le droit de prendre leur voiture et de circuler en voiture la nuit. Les débits de boissons qui sont fréquentés par les Algériens sont fermés. Il y a vraiment cette idée que pour la préfecture de police de Paris, il faut empêcher empêcher les attentats à l'encontre des policiers, mais aussi empêcher le fonctionnement clandestin et notamment nocturne du Front de Libération Nationale, puisque c'est aussi la nuit que se font les collectes d'argent pour le FLN. Et donc là, il y a aussi la volonté de court-circuiter l'action du FLN sur le territoire métropolitain. Pour la population algérienne, en quelque sorte, la goutte qui fait déborder le vase, c'est une discrimination qui se rajoute à bien d'autres. Ça s'ajoute aux arrestations au faciès, au harcèlement policier quotidien qui devient insupportable. Et donc, il y a une mobilisation qui vient aussi de la base, si je puis dire, puisque la population algérienne désire protester contre ces mesures discriminatoires. Donc, en quelque sorte, on peut quand même dire que c'est le harcèlement policier qui est le principal facteur de la mobilisation des Algériens à l'issue, le 17 octobre 1961. Faut aussi ajouter autre chose, c'est que outre cette mobilisation de la base, c'est aussi la volonté pour le FLN et notamment pour la Fédération de France du FLN de montrer au gouvernement provisoire de la République algérienne quelle est une force avec laquelle il faut compter. Donc il y a aussi ce type de logique qui entre en compte ici. Donc selon les rapports de police on considère que la consigne de la manifestation du 17 octobre cette action de manifestation est décidée en fait 2 jours avant, le 15 octobre, lors d'une réunion qui regroupe une 60aine de cadres du Front de Libération Nationale, et qu'ensuite le mot d'ordre circule par bouche à oreille avec ce mot d'ordre qui appelle en fait à se réunir pour manifester et marcher dans la ville aux heures et dans les lieux interdits le soir du 17 octobre. Donc je vais essayer de vous décrire plus précisément ce qui s'est passé le 17 octobre au soir. Donc face à ce mot d'ordre de mobilisation, en fait il y a une très grande partie de la population algérienne de la région parisienne qui se mobilise. On estime environ à 20 à 30 000 personnes qu'il y a 20 à 30 000 personnes qui se sont sorties ce soir-là dans les rues parisiennes pour manifester. Ça correspond à peu près entre un quart et un sixième de la population algérienne de la région parisienne. Donc c'est très important et à la fois c'est pas non plus tout le monde, donc c'est pas non plus. Il y a eu cette idée parfois que le FLN aurait contraint les Algériens à sortir manifester dans la rue. Il n'y a pas non plus tout le monde qui est sorti. Donc si ordre et mot d'ordre il y a eu, ça c'est pas non plus tout le monde, mais c'est quand même voilà beaucoup de personnes qui se plusieurs cortèges se forment. On a un cortège qui part des Champs-Élysées et qui se dirige vers la Concorde, un cortège qui part de la place de la République et de Saint-Lazare et qui prend la direction de l'Opéra et des cortèges, enfin un cortège dans le Quartier Latin. C'est peut-être assez connu, mais il faut quand même le rappeler, le FLN avait donné pour mot d'ordre de ne pas apporter d'armes. Il y a même eu des fouilles, en fait, à la sortie de certains bidonvilles et dans les lieux qui étaient assez contrôlés par le FLN pour vérifier que les gens n'apportaient d'armes, pas d'armes, et il était intimement recommandé de ne pas répondre aux provocations. Il fallait que ça reste une manifestation pacifique. C'est assez frappant, on le verra peut-être dans les images d'archives, soit dans le film, soit dans les photographies qui suivent. Les Algériens se mettent un peu sur leur 31. Souvent, on voit que les hommes portent la cravate. Tout le monde, d'une certaine manière, ces hommes qui sortent des garnis, qui sortent des bidonvilles. Réussissent ici à une sorte de coup de force, c'est-à-dire que c'est une émeute aussi qu'on a appelé une émeute, enfin pas une émeute, une marche, mais on a appelé aussi ça une émeute de la dignité, c'est-à-dire que il y a vraiment cette volonté d'être présent aux heures et dans les lieux interdits et de marcher et de s'afficher bravement dans ces lieux. Donc face à cette mobilisation, disons que la police procède à des arrestations massives. Souvent dès la sortie des bouches de métro, on arrête les gens, on les met dans des bus qui ont été réquisitionnés, c'est les bus de la RATP. C'est aussi ça le bus de la caricature de la première image là, avec Maurice Papon. Et assez vite, ça tourne un peu à la chasse à l'homme et aux faciès. Comme par exemple sur le pont de Neuilly où on a en fait des unités, enfin des forces de police qui attendent les manifestants et qui vont en fait prendre en tenaille le cortège de manifestants et qui va se retrouver en fait bloqué sur le pont. Il va y avoir de très violentes charges de la police qui vont parfois utiliser des armes qui n'ont rien à voir avec des armes de maintien de l'ordre, comme par exemple des manches de pioche, des barres d'acier, et un certain nombre d'hommes inconscients et blessés vont être jetés par-dessus le pont et dans la Seine. On a par exemple des photographies du photographe Élie Kagan qui sont assez connues et qui a en fait pris des photos dans la soirée du 17 octobre. Le photographe notamment témoignera du fait qu'il a retrouvé 3 corps rue des Pâquerettes, pas très loin du bidonville de Nanterre. De même que dans les archives, les rapports des médecins font état de blessures qui, là encore, n'ont rien à voir avec des blessures qui pourraient résulter d'une sorte de volonté de maintenir l'ordre, mais qui auraient éventuellement dérapé. Non, ce sont souvent des bras et des mains cassés qui correspondent en fait aux gestes de défense de la personne, ou bien des coups, des lésions internes à l'estomac, à l'intestin, etc. C'est vraiment des blessures qui sont en fait le résultat de moyens qui sont utilisés en fait ici pour donner la mort ou au moins pour qui témoignent en fait de la brutalité d'une répression terrible. C'est pour dire que en fait la thèse de la bavure ou du dérapage ne tient pas, si vous voulez. De même que si ça avait été un dérapage ou une bavure, les violences n'auraient pas eu lieu dans des durées et dans des temporalités et dans des lieux géographiques aussi dispersés. De fait, il y a des coups de feu qui sont tirés sur le pont de Neuilly, sur la place de l'Étoile, dans un certain nombre de villes de banlieue, mais aussi sur les grands boulevards. Il n'y a pas un impact violent à un moment, en un point précis, qui pourrait accréditer cette thèse de la bavure. De même, les premières brutalités commencent à 18h et on a encore le lendemain à froid dans les centres de rétention des brutalités d'une extrême violence qui sont enregistrées. Donc c'est pas un dérapage à un moment et voilà, non, c'est autre chose. Dans les jours qui suivent, pour terminer sur ce qui s'est passé vraiment ce soir-là, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les jours qui suivent, le FLN a continué à braver le couvre-feu, a aussi engagé les commerçants à faire une grève pour manifester leur refus du couvre-feu. Et trois jours après, le 20 octobre, les femmes sont sorties dans la rue à l'appel en fait du FLN pour réclamer un certain nombre de choses. Elles sortent dans la rue dans Paris et elles viennent réclamer la libération de leur mari, l'indépendance de l'Algérie et la cessation du couvre-feu. Donc c'est ça ces mots d'ordre, les mots d'ordre de ces femmes. C'est un peu moins connu, mais c'est important de le rappeler. Donc pour conclure sur cet ensemble sur cette soirée en fait du 17 octobre, peut-être on peut revenir sur la question des chiffres, même si là encore, comme toujours, c'est impossible de savoir précisément, mais en tout cas, voilà, ce que disait Muriel en introduction, il faut rappeler que officiellement, il y a eu deux morts, ou plutôt trois, avec un métropolitain qui a été tué à coup de crosse devant le cinéma du Rex, et deux Algériens. Et c'est vraiment la thèse officielle qui va prévaloir jusque dans les années 1990. Et puis, il y a eu vraiment les historiens. Il y a une très grosse querelle sur ces chiffres. Qui notamment entre Jean-Luc Enaudi et Jean-Paul Brunet, qui a duré assez longtemps, mais aujourd'hui les historiens s'accordent à dire que il y a eu entre 100 et 200 morts ce soir-là. Les comptes sont très durs à mener puisque il y a aussi beaucoup d'Algériens dont on a perdu la trace le lendemain et les jours suivants parce qu'ils ont été expulsés en Algérie. Donc ça rend compliqué les décomptes, si vous voulez. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question. Par exemple, nous, on a choisi d'appeler cette conférence un massacre, mais qu'est-ce que c'est que cette violence policière du 17 octobre 1961 ? Il y a plusieurs termes qui ont été utilisés et qui ont des sens différents, mais dès 1961, on a parlé en fait de ratonnade. C'est notamment Michel Lévin qui a utilisé ce terme. D'autres ont parlé de pogrom, comme Pierre Vidal-Naquet, pour décrire une violence qui est à la fois une violence raciale, sociale et politique, et qui est une violence qui est tout à la fois planifiée et spontanée, si vous voulez. Donc c'est intéressant. Nous, on reprend avec Emmanuel Blanchard le terme de massacre. C'est un terme qui s'est un peu imposé depuis les années 1990, parce que ça permet en fait de faire le lien avec un certain nombre de massacres coloniaux qui ont lieu dans l'Empire britannique, par exemple. Il y a des massacres en Inde pendant la période de domination coloniale britannique. Il y a aussi des massacres dans l'Empire colonial français, à Sétif, par exemple, en 1945, ou à Casablanca, en 1952. Et disons que ce qui change ici, ce qui est encore un saut qualitatif, si vous voulez, c'est qu'ici, on n'est plus sur le terrain colonial, on est au cœur de la capitale métropolitaine. Mais c'est quand même, disons, un massacre de type colonial, au sens où c'est la nature de coloniser des personnes qui ont été réprimées qui va rendre possible la mise en œuvre de ce répertoire d'action, de ces méthodes-là, qui jusque-là, en tout cas, était propre aux empires coloniaux. Voilà, c'est un terme qui reste discuté, hein, parce que au sens où le terme de massacre, à la fois, enfin, je trouve qu'il est assez adéquat, et on a pu objecter que ça rend pas compte du fait que c'est un véritable cycle de violence diffus dans le temps et dans l'espace et qui s'est étendu parfois sur plusieurs, enfin, qui là, dans ce cas-là, s'est étendu sur plusieurs semaines. Les violences se poursuivent encore après. Voilà. Et pour terminer, ce qu'on peut dire, il me semble, c'est que l'un des enjeux aujourd'hui, c'est pas tant la reconnaissance du massacre, puisque ça, Muriel vous l'a bien dit, il y a eu énormément de commémorations l'année dernière, c'est quelque chose qui est relativement reconnu, même si, bien sûr, il n'y a pas de, enfin, même, voilà, le fait qu'il y ait une plaque posée par le maire de Paris, voilà, c'est quelque chose de reconnu. L'enjeu aujourd'hui, c'est au-delà de la responsabilité de Papon et des policiers sur le terrain, c'est la responsabilité du ministre de l'Intérieur, du Premier ministre et du président de la République à l'époque, si vous voulez, qui ont aussi, enfin, disons, Papon ne s'est pas affranchi de la tutelle du gouvernement quand il a rendu, enfin quand il a laissé, enfin ou rendu possible ses actes. Et ici, enfin les autorités notamment ont rendu un hommage à son action et clairement il répondait aux ordres du gouvernement.